Famille, justice, enfance.
Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance, un nouveau direct depuis les studios de RLP en ce vendredi soir ou mercredi si vous nous écoutez en rediffusion. Aujourd'hui dans Famille, Justice, Enfance, notre émission sur l'étude de la famille contemporaine occidentale, nous allons parler médiation, conciliation, nous allons parler aliénation parentale, nous allons parler de changement de paradigme dans l'accompagnement des parents et des enfants lorsqu'ils sont confrontés soit à la recomposition familiale, soit à la protection de l'enfance. Pour ce faire, nous recevons ce soir Maître Sarah Mazzotta. Maître Sarah Mazzotta est avocate, médiatrice et coordinatrice parentale associée chez Alteo Avocat à Montpellier. Elle est membre de l'association Les Avocats de la Paix. Elle est également, et c'est comme ça que je l'ai contactée, diplômée du certificat de coordination parentale dispensé par l'ICES de La Roche-sur-Yon. Maître Sarah Mazzotta, bonjour.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Écoutez, merci d'être venu. Donc rapidement, votre description vous convient ou est-ce qu'il manque quelque chose ?
Non, ça, c'est très bien. Je fais également partie d'un réseau de médiateurs en Occitanie, le réseau Médiaction. Mais sinon, votre présentation est parfaite.
Alors, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est votre parcours, ce changement de paradigme. Hein. On reproche souvent aux avocats, de vendre des procédures, mais de tellement s'arc-bouter sur la défense de leurs clients, en fait, de se retrouver dans une conflictualisation des conflits, c'est comme ça qu'on va dire. Voilà, et là, on est sur un paradigme très différent. Mais déjà, vous, là, en quelques secondes, très rapidement, pourquoi ce métier et pourquoi cette façon de faire ce métier ?
Alors, ce métier, je l'exerce depuis 25 ans et ça fait quelques années maintenant, aussi bien en matière familiale qu'en matière sociale, en droit du travail. Et ça fait quelques années maintenant que je suis un peu en perte de sens, justement, par rapport au dysfonctionnement récurrent et constant de la justice, qui manque cruellement de moyens. Et je ne suis pas la seule à le dénoncer. Je crois que c'est un constat qui est unanime, quel que soit les secteurs.
Voilà, et c'est dramatique pour eux et c'est dramatique pour nous.
Voilà, et c'est particulièrement dramatique, bien entendu, en matière familiale, quand la santé psychique, émotionnelle, mentale, physique des enfants, quel que soit leur âge, est en jeu. Donc, face à cette perte de sens, j'ai commencé à m'orienter d'abord vers la médiation. La médiation qui est un mode alternatif de règlement des différends, on appelle ça les MARD, les MARD, mode alternatif, qui est complètement axé sur le dialogue, sur l'écoute, sur les émotions aussi, beaucoup. Donc on la difficulté, le problème beaucoup plus largement que le simple litige juridique. Et ça englobe, on appelle ça le conflit, hein, et ça englobe justement toutes les parties émotionnelles de la peur de la personne qui va avoir des conséquences sur sa manière de réagir, aussi bien au travail que dans la famille. Après cette formation de la médiation, je me suis aperçue que la médiation était parfaitement adaptée pour tout un tas de domaines quand les parties étaient volontaires, quand les parties jouaient le jeu, quand les parties étaient en capacité de s'écouter, qu'elles n'étaient pas trop engagées émotionnellement dans le conflit. Et surtout quand il n'y avait pas de violence, si je me réfère à la famille. Hein. Dans tous ces cas, justement, où il y a des violences, où quand les conflits sont beaucoup trop importants et qu'il y a de la manipulation, de l'emprise de l'un sur l'autre, des conflits sévères de séparation, comme on les nomme, eh bien la médiation, malheureusement, n'est pas adaptée et ne marche pas. Absolument pas. Et donc, c'est là où je suis tombée un peu par hasard sur Marie-Clotilde Danis, maintenant l'ICES, je crois que c'est la troisième promotion, c'est même sûr. Actuellement, c'est la quatrième, pardon. L'ICES à La Roche-sur-Yon, en Vendée, et qui développe ce certificat de coordination parentale, justement pour proposer une autre offre qui fonctionne dans tout un tas de pays européens. C'est développé depuis les années 80 aux États-Unis, c'est arrivé au Canada, c'est arrivé déjà en Belgique depuis un petit moment et surtout en Italie, en Espagne. Bref, on était un petit peu à la bourre en France, comme bien souvent, donc il était temps. Et c'est axé en fait, c'est un accompagnement, c'est un processus, c'est un accompagnement qui est proposé aux parents dans le cadre des conflits sévères de séparation ou des conflits très récurrents où la santé psychique et mentale des enfants est menacée.
Alors, on va rajouter, vous êtes maman de deux enfants qui oui, s'approchent de l'âge adulte. Hein, donc, vous avez visiblement une expérience, vous avez un vécu. Vous avez un vécu de la vie, vous savez que c'est pas tout le temps ni rose, ni blanc, ni gris, ni noir, il y a des zones de gris, voilà, c'est pas toujours, il n'y a pas d'absolu dans les sciences humaines. Vous avez plusieurs dizaines d'années d'expérience, donc vous avez pu voir aussi l'évolution de la société et de l'institution, je suppose également. Donc, ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir aussi que vous-même, vous ne pratiquez plus aujourd'hui comme vous pratiquiez il y a 20 ans.
Absolument pas. Vous avez entièrement raison. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis rapprochée des avocats de la paix qui ont une certaine charte qui s'appelle les avocats pacificateurs des conflits, qui privilégient l'écoute bienveillante, active, qui ont tout un tas d'outils dans leur trousse à outils précisément pour tenter de régler différemment les litiges. Et ce n'est vraiment que dans des cas extrêmes. Et c'est tout un tas de confrères dans le cas des avocats de la paix qui ont déjà complètement franchi le cap et qui ne travaillent quasiment que en amiable.
Alors, je vais rentrer tout dans les questions. Nous, en associatif, dans les permanences, il y a des questions qu'on va revenir tout le temps. Vous avez dit tout à l'heure par rapport à la médiation. Oui, alors, qu'est-ce qu'on fait lorsque l'autre parent ne veut pas faire de médiation ? En fait, on va englober. Pour faire la paix, il faut être deux. Pour faire la guerre, il suffit d'être un seul. Qu'est-ce qu'on fait lorsque une des deux parties pourrit le truc pour priver l'autre ?
Eh bien justement, la médiation, malheureusement, ne peut pas grand-chose à ça, comme vous le savez peut-être pas, mais elle est confidentielle. Et elle est basée sur la liberté des parties d'y participer et la volonté des parties. Donc, d'accord, quand un parent ne veut pas ou ne peut pas entendre et ne peut pas se déplacer ou ne veut pas se déplacer, malheureusement, eh bien c'est là les limites de la médiation. D'accord. Et c'est pour ça que la coordination, à mon sens, est beaucoup plus adaptée. Elle est en cours de déploiement depuis 2021 sur le territoire. Il y a quelques juridictions, effectivement, qui commencent, c'est tout récent, à l'expérimenter. Ça a l'air de fonctionner. Moi, je vais tout faire pour essayer de la développer, effectivement, sur Montpellier, parce que je suis diplômée depuis très peu. Hein. J'ai eu mon diplôme, là, il y a quelques jours, mi-janvier.
Quelques semaines.
Oui, mi-janvier, ça fait, on est presque en jour quand même. Allez, semaine, d'accord. Et ouais, tout ça pour dire que j'espère vraiment que ça va permettre à un certain nombre de familles de s'apaiser, de se désengager, et puis qu'on parviendra à travailler, à recentrer les parents sur l'intérêt des enfants. Et si on est dans une situation, comme vous le disiez à l'instant, où un parent ne veut pas ou ne peut pas entendre ce qui est bon pour l'enfant, l'avantage de la coordination parentale, c'est qu'il y a un rapport qui est fait au juge quand elle est judiciaire.
D'accord. Oui, c'est intéressant.
C'est la grosse différence.
Oui, tout à fait.
Alors, on n'est pas là pour moraliser, c'est pas une enquête.
Bien sûr.
On n'est pas enquêteur, on n'est pas en train de faire des diagnostics, mais par contre, factuellement, ce qu'on a pu observer, parce qu'on les suit de près, on les accompagne, on va être mis à contribution, par exemple, on sera au moins dans le premier mois au démarrage, quand c'est compliqué pour démontrer, effectivement, pour montrer qu'on est présent, eh bien, on aura connaissance de tous les mails qui s'échangent et on pourra voir justement de quelle façon ils communiquent et comment faire pour communiquer autrement, justement pour parvenir après à un plan parental. Vraiment, le but, c'est de désengager émotionnellement un maximum les parents et permettre, faire en sorte qu'ils trouvent une manière de communiquer.
Ok.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Alors, coordination, avocat de la paix, certificat coordination parentale, il faut qu'on explique un petit peu. Qu'est-ce que c'est les avocats de la paix ? Vous êtes combien ? Depuis quand ça existe ? En quelques mots.
Alors, moi, j'ai rejoint l'aventure depuis peu, là également. On est dans toute la France. Alors, combien on est précisément, je dirais, je ne veux pas dire de bêtises, je veux une bonne quarantaine. On a des colloques régulièrement, des formations, on a des outils qu'on met à disposition, beaucoup d'échanges, groupe WhatsApp, et dès qu'on a des interrogations. En fait, c'est toute une communauté qui se sent beaucoup moins seule dans l'exercice et qui va échanger.
Donc, c'est un regroupement basé sur des valeurs communes.
Exactement.
D'accord.
Oui,
okay.
Tout à fait.
Et la coordination dont vous parliez, qu'est-ce que c'est ?
Alors, la coordination parentale, c'est justement, c'est une mesure d'accompagnement des parents. Elle peut être judiciaire ou conventionnelle, mais c'est quand même la manière dont ça marche le mieux, c'est quand il y a justement un rapport qui est fait au juge, parce que ça s'applique, comme je venais de vous le dire, dans des situations où le conflit est très élevé, très très élevé. Et donc, c'est, comme je vous l'ai indiqué à l'instant, c'est vraiment un processus qui vise à accompagner les parents sur une durée minimale de 6 mois. À n'importe quel moment de la procédure, le juge peut désigner un coordinateur parental pour accompagner les parents. Et justement, pour entrer en contact, donc c'est une espèce de codisciplinarité, pour entrer en contact avec les médecins s'il faut, les chefs d'établissement, tout un tas d'acteurs qui gravitent autour des enfants.
D'accord, c'est une nouvelle procédure, un nouvel outil du magistrat pour ordonner, parce que actuellement le magistrat, qu'est-ce qu'il a ? Il a des experts psychologiques, des experts psychiatriques, des enquêtrices sociales, parfois des rapports travailleurs sociaux, il n'a rien d'autre pour faire aller sur le réel, et là le magistrat peut diligenter des gens qui vont lui faire des retours d'informations.
Tout
c'est
à
ça,
fait.
En fait. D'accord, ok, très bien. Comme ça, on voit ce que c'est.
C'est parfait. Hein. C'est ça, mais c'est surtout pour permettre en fait aux parents eux-mêmes de mieux comprendre les conséquences du conflit et des violences sur leur enfant.
Juste pour être sûr, c'est pas une manière de mettre une nouvelle commission avec plus d'intervenants qui va ralentir encore plus, ou au contraire, ça peut accélérer ?
Non, pas du tout, parce que c'est interactif. Tout de suite, surtout, et à la différence de la médiation, il fait intervenir l'enfant dans le processus, c'est-à-dire qu'il va y avoir des entretiens par ce coordinateur parental qui est formé avec les enfants, avec les parents également. Pas besoin de mettre les parents ensemble lors d'un entretien commun, parce que bien souvent, c'est dans la mesure où il y a des violences, ça n'est pas possible. Donc, c'est précisément pour parer à ces difficultés en médiation que cet outil existe et qu'il est parfaitement adapté dans ces cas de figure-là.
D'ailleurs, ce serait une complétion de l'existant, parce que on va être honnête, on va être franc. Actuellement, les outils du magistrat qui sont les experts sont plus ou moins désuets. Enfin, ça marche mal. Ils sont très, très mal payés. On s'interroge sur le niveau de qualité de ces choses-là. Et on voit que parmi les experts, ceux qui sont de bonne volonté sont déjà en train d'essayer d'arranger les choses et de faire de la médiation. Ils sont plus en train de faire de l'expertise pure. Donc, quelque part, c'est l'étape d'après.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison, complètement. Oui. Sauf que là, le but, c'est mental, et ça, c'est la grosse problématique avec les expertises, et j'ai envie de dire avec tout un tas d'autres outils encore pires, notamment la mise en place des visites médiatisées. Ça dure un temps infini, et c'est très, 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 très long à mettre en place. Là, le coordinateur parental, il s'engage à se saisir du dossier dans les 15 jours de la désignation. Il y a tout de suite un entretien, le premier entretien qui est organisé avec le premier parent, suivi une semaine, 15 jours après du second avec l'autre parent. Il y a une espèce de dynamique qui est engrangée immédiatement, qui rassure les parents et qui fait que ce processus fonctionne. Ils sont pas, c'est pas juste une réunion d'expertise une fois tous les 3 mois. C'est vraiment quelque chose de très, réactif. Et le but étant, de d'aider les parents. C'est comme ça que c'est conçu, c'est comme ça que ça marche dans les autres pays, de prendre conscience et de changer leur manière de fonctionner.
Parce que c'est le premier reproche qu'on entend, hein, lorsqu'on est tous confrontés à ça. Le premier, c'est beaucoup trop lent. là, ils disent « je veux les expertises pour comprendre », on sait qu'on a perdu un an. Enfin, au départ, on ne le sait pas. Après, on se rend compte qu'on a perdu un an. Après, les reproches qui viennent, c'est effectivement « c'est plus nos enfants », et puis on n'y comprend rien, ça coûte cher. Bon. Mais là, le fait, ils sont en train de se sont fâchés, là, ou alors il y a un voisin qui a entendu un truc, qui a fait une dénonciation, ou ouais, il y a une institutrice qui n'est pas contente, une infirmière qui s'est braquée. L'engrenage, en fait, il y a un intérêt à... qu'on en parlait avant hors antenne, à défendre l'intérêt de l'enfant, qui est celui de rester à proximité de ses parents, quand même, faut quand même pas l'oublier. On met pas l'enfant en pause durant 3 ans, le temps de comprendre ce qui s'est passé. Non, faut faire un petit peu, voilà, c'est pas ça. Et puis quand on est parent, son enfant, on vit avec, hein, si jamais il tousse, c'est pas dans 2 semaines qu'il va à l'hôpital, hein. C'est tout de suite que je mets la main sur le front, que je prends la température, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un ressenti qui est instantané, qui ne correspond pas à la réalité judiciaire. Bon. Et vous,
complètement.
Et vous,
mais
vous
c'est
êtes...
la frustration qu'on les juge aussi. Hein.
Mais je sais bien. Enfin, nous, on se plaint parce qu'on a un côté utilisateur, une expérience client, en fait. Mais eux, en fait, ils ont aussi une expérience de professionnel. Et je comprends, en fait, tout le monde a un intérêt à ce que ça aille mieux, hein, que ça râle moins. Ça, c'est absolument évident. Hein.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Donc vous êtes allé passer ce diplôme de certificat de coordination parentale. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que là, je lis des choses qui sont très intéressantes. La coordination parentale est une méthode de résolution des différences centrée sur l'intérêt des enfants qui propose un cadre d'intervention innovant et structuré, s'inscrivant dans un cadre judiciaire. Elle s'intéresse aux parents séparés dont le niveau de conflit élevé et persistant constitue un risque porteur pour leurs enfants. Et il n'y a rien de pire qu'un conflit parental qui est aggravé par l'institution, par les intervenants externes et qui reste figé dans le temps longtemps, il n'y a rien de tel pour bousiller les gamins. Voilà. On a posté un truc en commun sur LinkedIn, là, qui nous vient du Québec, comment bousiller un enfant après une séparation. C'est-à-dire qu'en fait, on fige, on glace, on cristallise la situation. Et le gamin, il part complètement en vrille. Et là, on rentre dans l'aliénation parentale, on rentre dans les effets secondaires par rapport à l'enfant, parce que le fait que le système ne fonctionne plus ou pas bien, ou ne soit pas adapté, entraîne des perversions.
Mmh. Oui, oui. Le gros risque, c'est très très bien décrit dans tout un tas d'ouvrages, le gros risque, effectivement, quand on ne prend pas à bras justement le conflit parental et qu'on n'essaye pas de solutionner
à l'origine,
en bonne intelligence avec
début.
Les parents... Au tout début,
oui.
d'où l'importance, mais vraiment les professionnels sont unanimes sur ce point.
Absolument.
Il faut réagir très très rapidement et intégrer l'enfant et expliquer ce qui se passe et faire en sorte que le conflit de loyauté ne se transforme pas après en effectivement une emprise. C'est un terme moins polémique que l'aliénation parentale. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont véritablement, et c'est encourageant, en train de bouger. Je viens de prendre connaissance justement sur LinkedIn d'un post récent qui parle, c'est tout récent, c'est le 13 février 2025. Il y a le premier rapport officiel français de la commission parentalité qui a été remis donc ce jeudi à la ministre des Familles, Catherine Vautrin, qui met en lumière de manière très claire et éloquente l'apport de la coordination parentale et qui préconise même, dit le texte, sa systématisation dès lors que les désaccords sont persistants et récurrents. Donc je trouve ça vraiment encourageant parce qu'on sait très bien, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y avait la TMFPO, la tentative de médiation préalable obligatoire qui avait été testée dans tout un tas de juridictions en France.
Ça c'est bien ça. C'est dommage.
Ouais.
C'était une bonne idée ça quand même.
C'était une bonne initiative. Hein. Ils ont trouvé que ça coûtait trop cher je pense. En tout cas ça vient d'être arrêté au 1er janvier 2025, c'est dommage.
Là, c'est parce qu'ils n'ont pas évalué les centaines de milliers d'euros par enfant qui est dépensé lorsque ça se passe mal.
Oui, c'est ça. En tout cas, oui, je trouve que tout ce travail qui est fait et notamment par un certain nombre d'avocats de la paix justement qui font tout un tas de propositions dans le cadre de ces commissions au gouvernement depuis quelques années, c'est vraiment encourageant qu'enfin on comprenne que eh bien la justice, la manière dont la justice est rendue aujourd'hui et les lenteurs insupportables de la justice qui la condamne d'ailleurs très régulièrement, hein, je pense qu'on est plus nombreux aujourd'hui, les avocats en France, à ne pas engager, moi je le fais systématiquement, clairement, la responsabilité de l'État dans le cadre de la lenteur des procédures.
Comment vous faites ?
Quand on voit qu'il peut y avoir 10 ans avant que soit divorcé, quand on revient de manière récurrente devant le juge, quand on perd un temps infini au gré d'expertises qui sont extrêmement coûteuses et qu'au final, ça accouche d'une souris, d'une décision où personne n'est content et qu'il va en plus falloir envisager un appel, c'est qui va durer des années de plus, c'est insupportable.
Comment vous faites pour engager la responsabilité de l'État ? Vous allez au TAC ? Comment vous faites ?
Non, c'est devant les tribunaux judiciaires. Moi, je commence toujours par une mise en demeure. Donc, je reprends tous les différents mois qu'il a fallu pour être convoqué une première fois, ensuite pour avoir une décision, une audience, une décision. Généralement, de plus en plus, l'agent judiciaire de l'État, par le biais ou pas d'un cabinet d'avocats, entre en contact avec nous et cherche à transiger pour éviter le procès, et quand le montant qui est proposé est insuffisant, on va plus loin et on saisit le tribunal judiciaire.
Donc vous saisissez le tribunal pour attaquer le tribunal.
Exact, pour attaquer l'État.
D'accord, ok.
L'État dans les lenteurs, et c'est mathématique de toute façon. Il y a tout un tas de décisions dans tout un tas de domaines, que ce soit en droit du travail, il y a tel délai raisonnable pour rentrer une requête, convoquer les parties, tenir une première audience de conciliation, suivie ensuite d'une deuxième audience en bureau de jugement, rendre une décision de justice, donc envoyer aux parties ce qui s'appelle le délibéré. Quand c'est trop long, quand ça dépasse les délais qui sont fixés par les textes, prévus par les textes, il y a tant d'euros par mois de retard qui doivent être indemnisés aux parties qui ont attendu trop longtemps, aux justiciables qui ont attendu des fois des années pour avoir une décision.
Ok.
Ça s'apparente à un délai de justice.
Ok. On peut en reparler après l'émission, ça m'intéresse pour certains cas. Vous me direz, interrogerai dans la. Mais bon, on ne va pas gâcher le temps d'antenne pour ça, mais j'ai des petites questions sur ça. Et peut-être que une fois que j'aurai bien compris, peut-être que je ferai un spécial pour les autres, parce qu'on va être un certain nombre à être intéressés sur ça. Là. Bon.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille, justice, enfance.
Dites-moi, vous me disiez aussi, avant, hors antenne et autres, que. Dans votre formation, là, forcément, vous avez été confronté à ces termes polémiques qui n'existent pas, notamment l'aliénation parentale. Alors, qu'est-ce que c'est que l'aliénation parentale ? Nous, on le sait, mais pourquoi ça s'est pourri comme ça ? Pourquoi est-ce que le terme n'est pas utilisé ? Pourquoi est-ce qu'on trouve des juges qui vous disent en pleine audience « mais non ». Ça n'existe pas. Si un enfant de 11 ans dit quelque chose, il ne peut pas être en train de mentir. Comment en est-on arrivé là ?
Je pense que c'est, encore une fois, c'est que de trop laisser traîner les dossiers. Il y a un très beau film qui le décrit très très bien, le processus de justement d'aliénation, d'emprise, d'exclusion parentale. Appelons-le comme nous voulons, mais le phénomène existe bel et bien. C'est un documentaire, c'est un film allemand. Parce que tu m'appartiens.
Absolument.
Voilà, j'engage vraiment les gens à le voir parce que je trouve qu'il décrive, et ce film décrit parfaitement le processus, à savoir une séparation difficile, tout un tas de d'enjeux. L'enfant est oublié, l'enfant est manipulé, l'enfant ne comprend pas bien ce qui se passe. Dans un premier temps, il se pose tout un tas de questions. Il se fait son propre film. Il est de plus en plus, par le parent qui manipule, mis à distance de l'autre parent. Jusqu'au jour justement où l'enfant somatise, ça fait également partie du processus, à des maux de ventre, à des phobies scolaires, enfin il y a des phénomènes, il y a des symptômes, à des scarifications, des problèmes de sommeil. À partir de ce moment-là, quand il souffre trop, il va mettre la souffrance à distance, la souffrance étant attribuée aux parents qui est rejetée. eh bien, c'est lui qui va se mettre en avant et qui va rejeter le parent. Lorraine Fillon, une Canadienne, l'explique super, très, très bien par image, en fait. On le voit vraiment. C'est quand le processus, et dans ce film, il le montre bien, d'aliénation est en jeu, d'emprise, eh bien, l'enfant n'a plus besoin. C'est lui qui va rejeter. C'est lui qui va désigner l'autre parent. Et une fois que ça s'est mis en place, que ce processus est mis en place, c'est extrêmement difficile et long de revenir en arrière. Donc, le
Marie-France Irigoyen le dit, Marie-France Irigoyen le dit, le retour de l'enfant est un mythe.
Il y en a plein qui, il y a des études en plus qui sont menées. Je veux dire, l'impact de ce phénomène sur le psychisme des enfants, sur le développement psychique, sur le rapport à l'autre, sur le rapport au lien social, il est absolument mais incroyable. Enfin, c'est pour ça, il faut. Moi, je pense qu'il faut sensibiliser au maximum.
Ah oui, mais vous avez raison. Mais pourquoi est-ce que c'est devenu si difficile d'en parler? C'est à cause de Kinsey? Y a-t-il eu un lobbying de certains réseaux qui ont dit que c'était... Ok, d'accord, je suis un homme. Peut-être que les gens qui viennent me voir sont majoritairement des hommes. C'est très possible. Peut-être qu'on attire aussi... Mais ils m'ont tous dit, ouais, mais en fait... Je vais élargir. Je réfléchis en même temps que je parle. La majorité des dossiers que je vois depuis 8-9 ans, sont centrés sur une ligne aliénation parentale contre accusation de violence psychologique ou physique. Et l'aliénation parentale, perte de l'enfant, est répondue en face par « c'est un outil des hommes masculinistes pour démonter et démentir les violences qu'ils font aux autres ». On entend ça parfois.
Oui, c'est ce qu'on entend, c'est très polémique. On parle notamment de la civisme. Mais moi, c'est ce que dit d'ailleurs Marie-France Rigoyard dans son livre, à la fin du livre. Je ne veux pas rentrer dans cette polémique parce que je trouve que de trop donner d'importance à cette polémique évite de parler du problème fondamental. Et vous le disiez, et c'est primordial, on le voit de plus en plus dans nos cabinets. Je suis loin d'être la seule. Il y a de plus en plus de podcasts qui sont faits sur le sujet. Les magistrats sont de plus en plus confrontés à ce genre de situation. Ça va aussi dans c'est un peu dans le cadre de cette société où les gens ont beaucoup de mal à se parler, où il faut aller dans un camp et pas dans l'autre. C'est pique, en fait. Et moi, je préfère m'intéresser véritablement au processus et essayer d'expliquer de manière très factuelle les mécanismes qui sont à l'œuvre et qui se mettent en place, étant précisé, comme on le disait hors antenne tout à l'heure, que ce phénomène n'est pas genré et qu'il s'applique autant aux Absolument. Hommes qu'aux femmes. Donc, à partir de là, la polémique, elle n'a même pas lieu d'être. C'est dommage de confronter. Enfin, il y a des enfants, effectivement, et c'est un véritable problème sociétal. Il y a des enfants qui sont victimes d'inceste. On en parle énormément. Mais il y a aussi des enfants qui sont empêchés, interdit d'entretenir des liens avec un de leurs parents. Et ça, c'est tout aussi dévastateur. Oui. Il y a d'un côté des violences physiques, d'un côté des violences psychologiques. On ne devrait pas avoir à confronter les deux. Il s'agit de nos enfants. Donc, on ne peut pas.
Vous venez de le dire, on oublie l'acteur principal de l'enjeu, c'est l'enfant. Parce que, quelque part, le parent doit s'effacer devant l'enfant, parce que c'est lui qui grandit, qui pousse et qui prend l'espace. C'est le cycle naturel des choses. Donc, c'est l'enfant qu'il faut. Dans une séparation, le point de vue qu'on devrait privilégier, c'est pas celui du parent, c'est celui du petit.
Exactement. Et le but, c'est vraiment ça, j'y attache une importance énorme à cette coordination parentale. Le but, c'est précisément de tout faire pour rétablir les moyens de communication parentaux efficaces et pour sécuriser au maximum les enfants et insister sur la réactivité.
Maître Sarah Mazzotta, comment est-ce qu'on vous trouve ?
Alors, on me trouve à Montpellier, me trouve sur LinkedIn, on me trouve sur le site de mon cabinet, cabinet Altéo, on me trouve sur Instagram, et voilà.
Et voilà, et votre lien sera dans les commentaires. Ne bougez pas, on pose encore une ou deux petites questions sur YouTube après l'émission, mais la partie radio se termine maintenant. Merci à tous d'être venus et je vous annonce Ariane Bileurand la semaine prochaine. À bientôt tout le monde, au revoir.
RLP.
Radio Libre en Périgord.
Famille. Justice, enfance.